Très heureux d'être parmi vous ce matin. Et je dédicace un peu ce message au groupe d'études de la Bible qui a suivi avec moi et Paul pendant un an le parcours de Marc. Marc 1 à 10, on vous a donné un premier épisode la fois précédente. Et là, on vous donne le dernier épisode de notre série. Et j'aimerais vous faire réfléchir en introduction ce matin à trois termes. À trois termes que l'on connaît bien. Christ, le chrétien et le christianisme. Je ne sais pas si vous me suivez ici ou par internet. C'est la première fois que vous suivez une célébration protestante évangélique. Mais je vous invite à réfléchir auquel de ces trois termes vous vient le premier en l'esprit quand vous vous concentrez, quand vous parlez de religion. Est-ce que c'est sur le troisième, le christianisme? Alors, je ne serais peut-être pas surpris que cela évoque pour vous du formalisme, parfois de la routine, et parfois même d'un certain côté, la mort. Si c'est sur le second, les chrétiens, alors peut-être que vous pourriez porter le t-shirt orné de l'expression « Jésus, sauve-moi de tes disciples !» Ou le christianisme pourrait être une bonne chose si quelqu'un voulait un jour l'essayer. Mais si c'est sur le premier, Christ, alors vous pourriez peut-être être émerveillé même, comme Friedrich Nietzsche, le plus grand philosophe athée. Au fond, et il a dit, il n'y a qu'un seul chrétien. Et il est mort sur une croix. Comme l'a très bien dit un auteur anglais, Chesterton, l'idéal chrétien, le service chrétien, on ne l'a pas essayé et trouvé déficient. Non, on l'a trouvé difficile. Et on l'a laissé de côté. Je répète, le service, l'idéal chrétien, on ne l'a pas essayé et on l'a trouvé déficient. Non, on l'a trouvé difficile. Et on l'a rejeté. Et je crois sincèrement que c'est le sentiment de beaucoup d'enfants de chrétiens, de ceux qui ont des parents qui les ont mis souvent face à leurs péchés, et qui ont connu ce sentiment de ne pas arriver à l'exigence de la vie de disciple. Et j'en connais au moins deux. J'en connais au moins deux enfants de chrétiens. Un qui est ici, et un qui me regarde. Ils aimeraient vivre comme Jésus, mais ils n'y arrivent pas. Je crois que j'ai parfois aussi l'impression que c'est le sentiment des plus anciens dans la foi. Alors, que faire? Se tourner vers une morale chrétienne sans l'aide de Jésus, avec des principes mais sans la foi, on pourrait dire un christianisme athée, c'est Michel Onfray qui encourage ça. Ou se tourner vers une personne, Jésus. Après le dernier épisode qu'on a vu sur Marc 8, je suis sûr que vous ne savez plus trop ce qu'il convient de demander à Jésus. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est Jésus. Qu'est-ce que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Voilà la question que ce texte nous pose ce matin. Je vous invite à lire avec moi. Marc 10, versets 32 à 52. Je vais lire dans la version Nouvelle Bible Seconde. Marc 10, versets 32 à 52. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Le livreront aux non-juifs, se moqueront de lui, lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront, et 3 jours après, il se relèvera. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez, et vous recevrez le baptême que je reçois. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les 10 autres, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et se mit à crier « Fils de David, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. À mi-chemin de ce parcours, Jésus nous a proposé un bilan ophtalmologique. C'était dans la dernière version, l'épisode précédent. Et on a vu que la guérison d'un aveugle nous avait montré l'état du cœur des disciples. Le cœur des disciples, ils étaient aveugles. Mais à un moment donné, Pierre a une illumination. Mais malheureusement, elle n'était que partielle. L'aveugle ne s'est mis à voir que des arbres. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Et même si Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, il n'a pas bien compris de quel Messie il était question. C'est le chapitre 8 qui nous le dit. Jésus est obligé de lui montrer que le vrai Messie sera un Messie souffrant. C'est l'annonce 1 sur 3 sur la mort, sur sa mort. Et que cette mort, elle va impliquer une autre mort, celle du disciple. Non, le vrai disciple est celui qui, au lieu de sauver sa vie pour la perdre dans l'éternité, acceptera de la perdre maintenant pour la sauver plus tard. Alors Jésus commence un lent processus de rééducation sur le chemin. Ce processus a commencé au chapitre 8, verset 34. Et ce processus de rééducation, il prend place sur le chemin, vers chapitre 8, verset 27, chapitre 9, verset 34, chapitre 10, verset 17. Et tous les sujets sont abordés. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Et le constat est assez terrible. On aurait espéré une progression avec les disciples. Vous savez, un graphique avec une courbe qui monte. Mais au lieu de cela, c'est le plat complet. Quand il est question de renoncement pour sauver sa vie, les disciples n'y arrivent jamais. Ils sont assoiffés de reconnaissance. Ils se battent pour savoir qui est le plus grand, chapitre 9, verset 33 à 50. En matière d'éthique, quand Jésus parle à propos du divorce, il trouve inimaginable l'exigence divine de devoir rester avec une seule femme. Qui imaginerait un tel supplice? Et c'est pas juste aujourd'hui, c'était les disciples déjà à l'époque. L'exigence divine en matière de couple. Mais sans doute ce qui les tue littéralement le plus, c'est que Monsieur Parfait, le jeune homme riche, chapitre 10, verset 17, celui qui a toutes les caractéristiques de la personne bénie par Dieu puisqu'il avait des richesses, arrive en plus avec une quête spirituelle pour obtenir la vie éternelle et il est disqualifié par Jésus, justement à cause de ses richesses. Et la conclusion sonne en 10-24. Mes enfants, qu'il est difficile, c'est Jésus qui parle. Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples comprennent alors le drame et posent alors la question. Mais alors, qui peut être sauvé? C'est juste avant notre texte. Jésus leur dit, c'est impossible aux humains, mais non pas pour Dieu. Les disciples sont loin d'être super confiants, on le voit dans notre texte. Même si Jésus a rassuré Pierre sur son sort d'avoir tout quitté pour le suivre, ils le suivent, dans notre texte, on le voit, verset 10, verset 32, ils le suivent, mais ils sont très effrayés. On le voit à deux reprises, verset 32. Suivre Jésus, ça implique d'avoir du mal. Hein. Mais c'est quand même, ça nous implique de décider de continuer, même si on a peur, même si cela paraît effrayant, ces exigences. En plus, Jésus, ça fait trois fois qu'il annonce qu'il va mourir. Chapitre 8, verset 31, chapitre 9, verset 30, chapitre 10, verset 32 à 34, on l'a lu. Mais pour eux, c'était hors de leur compréhension. Un sauveur qui devait mourir. Pour sauver en plus. Même s'il y avait des indices dans notre texte, dans le texte précédent qu'on a vu dans l'épisode précédent, il le fallait que Jésus meure. Dans notre texte, verset 33, il doit être livré. Mais pourquoi doit-il mourir? Qu'est-il donc venu faire? Que peut-il faire pour nous? Sur la dernière partie du chemin qui mène vers Jérusalem, Marc nous rapporte une dernière discussion, et c'est notre texte. Ce n'est pas juste avec les inconnus, mais c'est juste avec ses plus proches, Jacques et Jean. Cette fois, avant de poser la question, Jacques et Jean, ils demandent à Jésus de faire ce qu'il leur demande. On sent un brin de manipulation. Jésus ne rate pas l'occasion de leur demander « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Nous sommes posés sur leurs épaules. Verset 37 « Donne-nous de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Verset 37. Et Jésus leur demande « S'ils peuvent boire la coupe et être baptisés du baptême ?» Ils répondent « Oui. » Ils ont tout le langage que Jésus leur a enseigné. Mais ils n'ont pas bien compris ce que cela signifie. Ils ont les mots sur l'enseignement de la mort et de la résurrection, de la gloire future, verset 37, des souffrances, coupe et baptême. Mais le contre-interrogatoire de Jésus nous montre qu'ils n'ont rien compris. Leur version « perdre sa vie pour la sauver », c'est devenu une version totalement égoïste. Pas très loin d'ailleurs de la doctrine islamiste du martyr en échange d'un paradis rempli de vierges ou d'une certaine doctrine légaliste de certains milieux évangéliques. Face à cela, les 10 autres sont indignés, scandalisés, mais qu'on ne se trompe pas. Ils ne sont pas indignés de la demande, ils sont indignés que Jacques et Jean les ont devancés dans la demande. Jésus leur dit « Ne soyez pas comme les dirigeants de ce monde qui exercent leur autorité par la force et la contrainte. qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et il leur répète ce qu'il leur a déjà dit à trois reprises. Chapitre 9, verset 35. Quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà l'opposé des dirigeants de ce monde. Et on a du mal à imaginer le PDG d'une grande entreprise du CAC 40 qui gagne des millions et qui est en train de descendre de l'ascenseur du 40e étage et puis qui rencontre au détour une personne du ménage, qui fait le ménage, et puis qui s'adresse à lui et qui lui dit « Ah mais vous avez l'air fatigué, peut-être que vous devriez un peu lever le pied ». Laissez-moi finir votre travail. Je vais vous laisser les clés de ma BM et moi, je prendrai le bus. Bien sûr, cela ne se passe jamais comme ça. Et pourtant, c'est ce que Jésus, le Fils de l'homme, prévoit de faire. Sa venue n'est pas pour servir. Pas pour être servi, mais pour servir. Et le fait hallucinant, c'est que Jésus, c'est pas le PDG qui gagne des millions, c'est le roi de l'univers. Et il vient pas juste pour nettoyer le champ, il vient pour donner sa vie, pour mourir. Voilà la vie en forme de croix. Donner sa vie pour les autres. Voilà ce que les disciples sont appelés à faire. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à intégrer cette valeur. Jésus les a patiemment corrigés. Vous pourriez relire les chapitres 8 à 10. Et le constat est là. La courbe de progression est à zéro. Par conséquent, suivre Jésus, c'est pas difficile. Suivre Jésus, c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Et c'est le drame. Et ça ne concerne pas que les disciples à l'époque de Jésus. Nous sommes dans une situation similaire. Nous sommes engagés sur un chemin de renoncement et nous sommes obligés de nous engager. Et pourtant, à chaque fois, nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent. Et je m'adresse à moi le premier. Vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Et pourtant, nous croyons que Dieu sera impressionné par nos richesses et qu'il ne verra pas notre idolâtrie. Nous avons autant de chances d'entrer dans le royaume de Dieu que le chameau par le trou d'une aiguille. La vie en forme de croix, elle est essentielle, mais elle est impossible. Donner sa vie pour les autres, c'est beau, c'est mis en valeur par les prix Nobel de la paix, mais nous n'y arrivons pas à la vivre. Voilà la conclusion de cet épisode numéro 1 sur ce chemin. La vie en forme de croix, elle est essentielle pour obtenir la vie éternelle, mais elle est impossible. Heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. D'ailleurs, nous avions un indice juste avant notre texte. Ce qui est impossible pour les humains, l'est pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Quelle créativité pour les êtres humains dans la résolution des problèmes. Vous savez que dans les bus en Chine, on a installé un bol à côté du conducteur, un bol d'eau, pour éviter qu'il prenne les virages, vous savez, un peu trop rapidement. D'autres, en face des difficultés, fuient. Et il y a bien d'autres méthodes pour résoudre nos problèmes. Mais quand il s'agit de résoudre le problème du péché, Marc est sur le point de dévoiler une solution qui va au-delà de l'ingéniosité humaine. Elle est surtout la démonstration de l'apogée de la gloire de Dieu. Et la solution, elle a deux versants. Et le premier côté, celui de Dieu, s'appelle la substitution. Elle est lâchée comme une bombe à la fin de notre texte et elle répond fondamentalement à la question qui est martelée dans notre texte à trois reprises. À la question qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous ? Il est venu non seulement pour leur donner un exemple de la manière avec laquelle il devait vivre, mais il termine en décrivant comment sa mort est la solution à leur échec. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Merci aux pirates somaliens qui, grâce à eux, on peut comprendre l'idée de rançon, de payer une rançon pour garantir la liberté de quelqu'un qui est assujetti à une puissance hostile. C'est sans doute ce mot, un rappel de l'exode, de la libération du peuple assujetti à une puissance hostile qui était l'Égypte à l'époque. Ce mot aussi renvoie sans doute à ce que Jésus est venu faire et ce qui a été prévu par le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il s'est livré lui-même à la mort, il a porté le péché d'une multitude. Verset 45 d'Ésaïe 53 et qui est repris dans notre texte. Bref, la rançon, c'est bien le prix payé pour la délivrance d'un esclave assujetti à une puissance hostile. Cela correspond à la définition. Merci aux pirates somaliens. Comme la libération de l'esclavage en Égypte a été un sauvetage massif, l'intervention de Jésus, pour ceux qui se savent perdus, fera un nouveau sauvetage massif. Car ne l'oublions pas, l'échec des disciples les amène en enfer, chapitre 9, versets 43 à 49. Jésus ne l'a pas répété une fois, mais il l'a répété quatre fois. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à regarder au chapitre 9. On s'étonne parfois de la doctrine de l'enfer, mais c'est Jésus qui en a parlé le plus dans les Écritures. Et oui, l'échec des disciples les amène en enfer. Jacques et Jean ont échoué, de droit ils devraient mourir sous le jugement de Dieu et être passibles de l'enfer. Mais en tant que substitut pénal, en tant que remplaçant, Jésus donnera sa vie en échange de la leur. Et je trouve magnifique l'image du magazine biblique pour enfants qui s'appelle Tournesol, qui raconte cette histoire que Mathieu, mon fils, aime beaucoup. Il relate l'histoire d'un jeune homme qui a un grave problème au cœur. Cette personne va mourir s'il n'a pas une transplantation cardiaque et qui n'intervient pas rapidement. Et ses parents prient pour qu'un cœur lui soit donné. Et un jour, ils apprennent que la transplantation va intervenir dans les jours qui viennent, et l'opération se passe bien, et ce jeune qui a 17 ans retrouve sa vigueur, et il se pose une question, mais d'où me vient ce cœur? Après des investigations qu'il fait, il recherche dans le journal, il se fait passer pour un homme, un détective, il appelle l'hôpital, il circule, il n'a pas l'info, et puis il se rend compte qu'en fait, ce cœur, il vient d'un jeune qui est mort. Il a été fauché par un accident de voiture. Alors, il va voir ses parents, et il va sur la tombe de ce jeune, parce qu'il n'arrive pas à voir où sont ses parents, et puis il découvre que le père est pas loin, il discute avec lui. Le père dit, tu me connais, tu connaissais mon fils? Il dit non, il dit oui, mais en fait, il le connaît pas, mais il le connaît un peu, mais il le connaît pas. Et donc, il dit, mais viens, on va rencontrer mes parents. Viens, on va rencontrer ma femme qui souffre beaucoup. Et alors, ils ont un échange, et puis ses parents lui disent, ils sont défaits, tristes à la mort, car il ne reste rien de leur fils. Alors le jeune répond, c'est pas vrai. Je suis là. Et si je vis, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui nous ne sommes pas morts, c'est grâce à Christ. Parce que Christ est mort à notre place pour nous donner la vie. C'est ça l'évangile, c'est ça la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Jésus est venu faire une dernière chose pour nous. Cette fois, ce n'est plus les initiés, les disciples qui sont au bénéfice de qu'est-ce que Jésus peut faire pour eux. C'est un autre individu, il s'appelle Bartimée. Marc est un fin écrivain. Il nous fait rentrer dans la ville de Jéricho et il nous en fait aussitôt sortir pour nous mettre en contact avec un aveugle mendiant. Rien de vraiment étonnant, on a déjà parcouru, si vous aviez parcouru Marc, vous auriez vu qu'il y en a eu d'autres. Mais celui-ci fait écho à un autre aveugle. Celui de la semaine dernière, justement, de Marc 8. Celui qui était au début du chemin, alors que celui-ci, il est à la fin du chemin. Le premier miracle, il nous avait montré que la guérison de la vue n'était pas juste un problème physique, mais qu'il y avait un problème plus profond. Et que ce miracle en deux étapes avait montré que les disciples ne connaissaient que partiellement qui était Jésus. Et cette deuxième guérison, elle arrive à un moment où on est presque exaspéré de se dire que les disciples ne comprennent toujours pas cette vie en forme de croix. Certes, ils voient, mais ils continuent à être dans le flou et il y a une intervention supplémentaire qui est nécessaire. Et ça nous rappelle que les croyants ne se tiennent jamais debout sur leurs deux pieds spirituels. À chaque étape du chemin, nous dépendons toujours de l'illumination de Jésus. Bartimée est aveugle. Verset 46, il est au bord du chemin. Il incarne, pour Marc, le disciple modèle. Malgré sa condition, c'est le gars qu'on en a marre de voir. Il est à l'entrée de la ville, il crie toujours pour avoir une pièce. C'est peut-être le chrétien qui nous agace dans les rangs de l'église, qu'on en a marre d'avoir. Même il crie pour que Jésus ait pitié de lui, mais les gens le font taire. On en a marre de l'entendre. Mais pourtant, il appelle Jésus par deux fois, fils de David. Il sait qui est Jésus. Il sait qu'il est le Messie, le roi qui devait venir. C'est la seule fois dans Marc où Jésus est appelé le fils de David. Et il sait aussi une autre chose que peut-être beaucoup ont oublié. Il sait qu'il a besoin de Jésus. Ses cris s'amplifient verset 47, verset 48. Et il montre son besoin profond de secours de Jésus. Une nouvelle fois, Jésus pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jacques et Jean voulaient voir la gloire, être présents dans la gloire. Lui veut la voir. Jacques et Jean voulaient être vus. Bartimée voulait voir. Cette attitude l'amène à voir immédiatement, contrairement aux autres, et à faire partie du chemin. Cette fois-ci, il n'est plus au bord, verset 47, mais il est sur le chemin, verset 52. Jésus, au début de la section, qui commence au chapitre 8, nous a demandé d'arpenter un chemin de renoncement, de prendre sa croix et de le suivre. En 10, chapitre 10, verset 21, un homme riche a refusé de le faire. Maintenant, un pauvre mendiant accepte volontiers. Il est d'ailleurs empressé, verset 50, et on voit qu'il est prêt à tout abandonner, même son manteau. Vous savez, c'est un peu comme le sac de couchage dans le SDF, c'est tout ce qui a sa valeur. Et c'est à l'exact opposé de ce jeune homme riche que nous aimerions peut-être avoir pour les offrandes de notre Église. Cette route de renoncement est une route marquée par l'abandon de certaines choses. Elle impliquera sans doute la persécution et le combat contre le péché. C'est une route difficile, étroite, dira un autre évangéliste, mais une route qui mène à la vie. Ce cheminement avec Jésus, on voit que Jésus est sur le chemin. Il nous apprend que cette vie de renoncement est impossible par nous-mêmes. Or, cet échec n'est pas juste dommage, il est dramatique. Les conséquences, c'est notre exclusion du royaume. Nous ne serons plus en relation avec Dieu. Et ça a pour nom l'enfer. Mais ce cheminement avec Jésus nous montre que cet échec lamentable des disciples et de nous à leur suite n'est pas sans espoir. Jésus est venu pour y apporter une double solution. En tant que remplaçant, il offre sa vie en rançon pour la nôtre. Et il ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions le suivre. Ainsi, touchés par Dieu, les amis de Bartimée ont sans doute commencé à voir chez lui une nouvelle volonté de le servir. une action radicale quand sa main, son pied ou son œil le faisait pécher. Peut-être un désir de fidélité à sa femme, s'il était marié, et une préoccupation décroissante pour les biens matériels. Et ce qui est fou, c'est que Marc cite son nom. Marc ne cite quasiment jamais dans tout son évangile les noms des personnes qui sont guéries, mais là il le cite. Comme pour dire, comme pour rappeler à ceux qui sont en train de lire que oui, le Bartimée que vous connaissez parce qu'il fait partie des premiers chrétiens, oui, il est le disciple. Il fait partie des disciples. Alors qu'est-ce que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Si vous vous sentez comme ces enfants de chrétiens qu'on a parlé tout à l'heure, qui se trouvent incapables de faire ce que Jésus demande, si vous vous sentez comme au bord du chemin, comme cet aveugle, si vous vous sentez comme ces disciples incapables de faire ce que vous savez qu'il y a à faire, alors rappelez-vous que Jésus est venu justement à cause de cela. Il est venu pour vous sauver de vos échecs, de votre incapacité à faire ce que lui seul était capable de faire. Et c'est lui seul qui vous donne la possibilité de le suivre et de vous engager comme Bartimée. Par la foi. Et oui, malgré tout, même si Jésus a donné sa vie pour Bartimée, même si Jésus a ouvert ses yeux, notre texte nous rappelle au verset 52, et Jésus lui dira, pourquoi ta foi t'a sauvé? Comme l'a très bien dit cet écrivain anglais, l'idéal chrétien, on ne l'a pas essayé et trouvé déficient. On l'a trouvé difficile et on l'a laissé de côté. C'est à nous seuls de décider quel chemin on veut suivre. Soit nous engager par la foi, même si on est effrayé, mais confiant de ce que Jésus a fait pour nous. Confiant qu'il a porté nos échecs. Confiant qu'il nous rendra capables. Soit on le laissera de côté parce qu'il est trop difficile. Bartimée a choisi la foi et nous qu'allons nous choisir. C'est le chemin de la grâce, une grâce exigeante mais belle, tellement belle, l'objet de toute l'admiration des humains. On en a même fait un prix Nobel, des prix Nobel. C'est une parcelle d'éternité dans notre monde de souffrance. Je vous invite à prier. Père éternel, on doit faire le constat dans nos vies que te suivre, c'est pas difficile, c'est impossible. Mais on est tellement joyeux de voir que tu es venu justement parce que c'était impossible. Tu es venu justement nous tirer de cette impossibilité pour nous donner la possibilité de marcher par la foi avec toi, de vivre ce combat quotidien de la foi. Et tu nous as agrégés à un peuple, ton église, pour que justement on puisse le faire ensemble. Je te loue pour cela, Seigneur, et qu'on soit jeune converti ou qu'on ait plus de 20 ans de vie chrétienne. Je te prie, Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler que tout ce que nous devons faire, c'est grâce à toi. Que tout ce que nous réussissons aujourd'hui, tout ce que nous arrivons à faire, c'est grâce à ton œuvre de substitution. Et parce que tu nous as rendu la vie. Ne nous permets pas, Seigneur, d'être satisfaits de ce que nous faisons pour toi. Mais que nous soyons toujours ces mendiants de la grâce, ces mendiants du cadeau immense que tu as accompli pour nous en venant sur la terre. Et que tu continues à agir au travers de nous. Et si nous nous sentons incapables, Seigneur, je te prie que tu viens à notre secours et que tu nous ouvres notre cœur pour accepter tout simplement que tu es venu.